Alors, restons dans les plantes. Cette fois avec Sophie, on va regarder les plantes en mouvement, les plantes qui bougent. Tout de suite, ce qui me vient en tête, moi, c'est le tournesol.
Luc, je présume que vous avez dansé dans votre jeunesse sur du Nana Mouskouri.
J'ai aimé Nana Mouskouri, mais j'étais assis et j'écoutais attentivement.
Le tournesol, ouais. Le tournesol.
On n'a pas besoin d'une
pas
boussole.
Besoin. Donc, Nana Mouskouri, en fait, dans sa chanson, elle parlait du mouvement des plantes. Et puis, il y a plusieurs types de mouvements chez les plantes. De prime abord, on se dit, une plante, ça bouge pas.
Qui dit ça?
Ça peut pas se déplacer. Mais les plantes, au contraire, sont des êtres vivants qui ont été longtemps classés dans des êtres totalement inférieurs, tout près des roches, à peine plus vivants qu'une roche. Mais on commence à comprendre que les plantes ont une certaine forme, oser dire intelligence? Ça dépend comment on prend ce mot-là. L'intelligence, c'est résoudre des problèmes. Il y a deux grandes catégories de mouvements chez les plantes. Il y en a qui réagissent à des facteurs extérieurs. Donc, c'est pas comme, disons, vraiment la plante qui bouge par elle-même. Ça, on appelle ça des tropismes. On voit ça souvent à l'école, là, au secondaire, le phototropisme. Donc, on réagit à la lumière, comme le tournesol. Géotropisme. Donc, la gravité, pourquoi les racines poussent vers le bas puis la tige toujours vers le haut? Vous allez me dire, c'est la nature même des plantes. Mais quand on fait des petits tests, il existe du géotropisme positif et négatif. Donc, on peut pencher une tige qui pousse normalement vers le haut. On peut mettre le pot à l'envers ou sur le côté. Et puis, la plante va réagir en s'éloignant de la gravité.
Wow.
Donc, géotropisme opposé à la gravité. Hydrotropisme, tigmotropisme. Tigmotropisme, ça, c'est le toucher. Tigmo, c'est T-H-I-G-M-O. Tigmo, c'est toucher. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les vignes.
Oui, oui.
C'est incroyable. Les vignes, quand on les filme puis on met ça en accéléré, là, la tige au bout va faire une espèce de mouvement en spirale. Et puis ça permet de balayer beaucoup de surface autour. Puis aussitôt que ça entre en contact avec quelque chose, soit une autre plante, un mur, il va y avoir des hormones qui permettent à toutes les autres tiges de se diriger vers ce support-là.
Donc, non seulement il va chercher à s'agripper, mais il va donner un signal aux autres pour...
Exactement. Mais ça, c'est des facteurs comme extérieurs, puis la plante réagit à ça. Mais je me suis intéressée beaucoup plus aux mouvements qu'on regroupe dans ce qu'on appelle les nasties. N-A-S-T-I-E, nasties, qui veut dire tout simplement mouvement. Mais les nasties, ça semble émaner un peu plus de la volonté de la plante, puis je vais dire volonté en gros guillemets, là. Mais pour comprendre, c'est que la plante... On dirait qu'elle a un rythme propre dans son mouvement.
Ouais.
Alors, au lieu du tournesol là, qui va se tourner au fur et à mesure que le soleil fait sa course, il y a des mouvements qui sont plus rapides, plus visibles. Entre autres, quand je parlais tout à l'heure de la vigne, au contact de quelque chose réagir, bien, il y a des plantes qui, soit de façon défensive ou offensive, vont bouger très, très, très rapidement. Et puis,
vraiment, ça se voit à l'œil?
Ça se voit vraiment très vite.
Ou ça prend une caméra, ou ça prend...
Non, vraiment
ça
à l'œil,
voit... ah, oui.
On le voit vraiment très bien. Il y a deux exemples. Il y a une plante qu'on peut acheter beaucoup, qui se trouve facilement là, dans les centres jardins. Elle s'appelle la sensitive. Bien, le nom est évocateur. Mmh. C'est Mimosa pudica là, en latin. Et puis, ça a des petites feuilles... composé, et aussitôt qu'on touche vraiment du bout du doigt une feuille, tout se replie très, très, très rapidement. Ah. Et puis, si on touche encore plus fort, là, vraiment, qu'on donne un coup sur la plante, à peu près toute la plante va refermer toutes ses feuilles en même temps. C'est un mécanisme qui fonctionne avec l'eau. C'est comme si la plante va retirer l'eau des feuilles très rapidement, puis ça va faire que ça va se refermer. Alors ça, c'est... peut-être une adaptation pour ne pas se faire brouter ou je ne sais pas s'il y a de la grêle pour pas que ça abîme les feuilles. on parle d'un mouvement de tigmonastie à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a des fleurs qui sont produites par la... C'est quoi la plante que vous dites?
La sensitive.
Oui, oui, oui.
Oui, la sensitive, elle fait des fleurs.
Donc, les insectes qui veulent soit, je ne sais pas moi, polliniser ou butiner ou ne peuvent pas, parce que dès qu'ils touchent à la fleur, je présume que la plante réagit.
En fait, la fleur, elle ne va pas vraiment réagir au toucher. C'est vraiment les feuilles, les petites feuilles composées.
Uniquement.
Mais il y en a des plantes, certaines plantes carnivores, comme la dionée, elle va faire de la tigmonastie offensive. Donc, aussitôt que ça touche, hein, un insecte touche, hop, ça va donner un coup et on le voit facilement à l'œil nu. Il y a aussi la thermonastie. Vous connaissez le safran, hein, c'est ce qu'on met parfois dans les plats culinaires qui coûtent cher. C'est une fleur, la fleur de safran. Puis on s'est rendu compte que peu importe les conditions de lumière ou les autres conditions autour, si on met des fleurs de safran au froid puis qu'on amène ça tout de suite au chaud, les fleurs passent de fermées à ouvertes. Il y a donc des réactions par rapport à l'environnement. Mais le plus étonnant, ce qui, moi, me fascine le plus, c'est la nictinastie. La nictinastie, c'est vraiment comme, on peut appeler ça mouvement de veille et de sommeil. Alors là, vous allez me dire, est-ce que les plantes dorment? C'est pas vraiment qu'elles dorment, mais elles ont un rythme. Et ça, on peut voir ça chez beaucoup de fleurs. Elles vont s'ouvrir le matin et se fermer le soir. Par exemple, le trèfle, l'oxalis, l'arbre qu'on appelle le robinier, bouton d'or, tulipe, hibiscus, pavot, et j'en passe. Mais ils n'ont pas toujours exactement la même heure d'ouverture le matin et la même heure de fermeture le soir. Il y en a même des fleurs qui sont totalement à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont se fermer
nocturne.
Le jour
ouais.
et puis s'ouvrir la nuit. On peut penser à l'onagre qui va s'ouvrir la nuit, même le baobab. Pourquoi tout ça? Pourquoi les fleurs ont des mouvements comme ça? Bien, la nictinastie, il y a eu plusieurs hypothèses. Pour celles qui s'ouvrent le soir, qui se ferment le jour, on peut penser, par exemple, qu'ils se sont adaptés aux pollinisateurs. Donc,
okay.
si les insectes, les papillons de nuit ou, par exemple, des chauves-souris, dans le cas du baobab, vont aller polliniser le soir, la fleur, elle veut justement s'ouvrir le soir. Donc, il y a une question de pollinisation, mais il y a aussi d'autres hypothèses, telles que Charles Darwin, même à l'époque, avait évoqué. Les fleurs pourraient se fermer le soir parce que, bon, éviter un risque de gel, par exemple, ou... conserver l'énergie parce que les fleurs, vous savez, ce sont les organes sexuels des végétaux. Et on veut attirer le pollinisateur parce que les fleurs ne peuvent pas se rencontrer l'une l'autre. Elles bougent, oui, mais quand même ne marchent pas,
ouais.
ne peuvent pas courir. Et on doit avoir un vecteur pour polliniser, pour se reproduire. Donc, c'est quoi ce qui est attractif? L'odeur, la couleur. L'odeur, ça prend de l'énergie pour produire ça. Il faut donc peut-être garder cette énergie-là au moment où les insectes qui nous pollinisent dorment, puis s'ouvrir et envoyer les odeurs au moment où les insectes sont le plus actifs.
Donc, les papillons de nuit servent de pollinisateurs également?
Oui, tout à fait.
Dans certaines régions du globe?
Exactement.
OK.
Mais il y a d'autres scientifiques qui disent « Ah, mais les fleurs se ferment la nuit. » C'est plutôt parce que le pollen, il pourrait y avoir de la rosée qui s'intègre au pollen, puis transporter des grains de pollen...
C'est plus lourd.
C'est lourd, ouais. C'est moins efficace.
Ça altère le pollen également, la rosée, possiblement.
Oui, ça va faire en sorte que ça va se dissoudre un peu. Mais l'idée la plus fascinante, et ça reste une hypothèse, mais les fleurs auraient peut-être l'intelligence de se fermer la nuit, fermer les feuilles et les fleurs pour que les prédateurs nocturnes comme les chouettes, les hiboux, les renards puissent voir encore mieux leur proie, les petits mammifères qui risqueraient peut-être de brouter les fleurs. Ça va loin, mais c'est une hypothèse plausible parce qu'on sait que...
C'est comme si la plante complotait avec le renard contre la proie du renard.
On peut voir
ils ont
comme
un deal,
ça.
Puis le renard fait quoi de bon pour la plante?
En fait, il va manger la souris qui risquerait de grignoter ses feuilles. Alors, vous voyez...
C'est le cycle de la nature.
Quand
vous
on
avez
dit
pris de l'herbe au chat, vous, là.
Quand on
je
dit...
Je sais plus c'est quelle des deux herbes, là, mais...
Mais finalement, il y a d'autres études qui laissent tout simplement suggérer, hein, puis il y a eu des expérimentations de fait, ils ont surtout les légumineuses, là, les fabacées. Ce sont des plantes qui se referment souvent la nuit. Puis ils ont fait en sorte que, ils ont fait des tests, un groupe qui ont obligé à rester les feuilles et les fleurs ouvertes la nuit. Et ces plants-là, avec un autre groupe test, a vu sa longévité diminuer de beaucoup.
Ah ouais.
Alors, est-ce que les plantes auraient tout simplement besoin de se reposer?
Ouais, ouais, ouais.
C'est une hypothèse.
Comme nous.
Ah ouais.
On a un cycle, mm-hmm. c'est le rythme circadien, jour-nuit. Alors, quoi faire de tout ça? Ben, c'est tout simplement d'observer autour de nous.
Être fasciné.
Et puis,
moi, je pense que c'est ça qui reste.
Peut-être qu'on va découvrir la bonne hypothèse, mais je vous encourage à aller voir sur Internet les deux plantes les plus fascinantes, selon moi, qui bougent vraiment bizarrement. On l'appelle la plante qui danse. Si vous faites juste plante qui danse, c'est fascinant. C'est une plante qui réagit au son, au son plus aigu, et elle bouge les feuilles assez vite pour qu'on la voit sans caméra spécialisée. Donc, son nom latin, Codariocalyx motorius, et elle peut même mémoriser les sons. Plus elle entend les sons, mieux elle danse. Okay. Et il y a le palmier à échasse. Donc, le palmier à échasse, il va littéralement se déplacer de quelques centimètres par année. Socrates exoriza, c'est son nom latin. Mais faites juste arbre qui marche, et puis vous allez voir des grandes racines de 2 mètres qui avancent dans la forêt tropicale, laissant les racines derrière, disons, sécher et mourir, ce qui fait que littéralement l'arbre peut se déplacer. Wow.
Mais je faisais écouter de la musique à mes plantes. Bien, quand j'étudiais beaucoup pendant ma période universitaire, puis j'étudiais avec du Beethoven. Et mes plantes n'ont jamais été aussi belles que pendant cette période-là, que maintenant, parce que j'en écoute moins. Donc, j'en fais jouer moins. Je ne sais pas si ça peut avoir un lien d'une certaine façon. Ou c'était seulement parce que je prenais trop d'herbe, qui sait.
Ou bien vous les arrosiez parce que vous les observiez un petit peu mieux.
Peut-être aussi.